Amis, frères et sœurs, bienvenue à tous. Avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit « Je vous donne ma paix. Je vous fais grâce pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pourriez me dire pour vous justifier, tout ce que vous pourriez me demander. » Je suis le Dieu qui aime sa création et son humanité tout entière. Autrement dit, chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous, tel que vous êtes. La grâce, mais aussi la paix, nous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site internet et qui sont en communion avec nous. Alors c'est encore un jour de fête pour notre Église parce que nous avons la grande joie d'accueillir aujourd'hui Aella Justice qui demande à recevoir le baptême. Chères familles, chers amis d'Aella, soyez les bienvenus dans ce temple à l'oratoire du Louvre, ainsi que tous les paroissiens fidèles et les personnes peut-être de passage pour la première fois dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent de l'étranger. Et pour nous accompagner musicalement, merci à Aurélien Péter qui est à l'orgue ce matin. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous sommes rassemblés dans ce lieu de prière et de communion. Permets que nous soyons une communauté de prière et de joie autour de celle qui va recevoir le signe de ta grâce. Envoie ton Saint-Esprit sur chacun, chacune de nous, et notre foi fera grandir notre amour du prochain. Béni sois-tu pour ta présence fidèle. Amen. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret liturgique qui est inséré au début du psautier français. Vous avez deux recueils, un plus gros et un plus petit. Le plus gros, c'est le psautier français. Donc, au début, il y a un livret liturgique. Nous prendrons ce premier chant qui s'intitule « Bénissons Dieu, le seul sauveur » et je vous invite à vous lever. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous aurez reconnu la lecture du psaume 23. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 23 dans le psautier français. Donc ça se situe Je ne sais pas à quelle page d'ailleurs, mais on va trouver. Voilà. Et alors, ce que je vais vous proposer, c'est de bien écouter la musique et nous suivrons l'organiste, parce qu'il y a juste un petit problème de mesure dans ce psaume, mais c'est Aurélien qui nous conduit dans cette juste mesure. Prenez place. Dans notre Église, on peut demander le baptême à tous les âges. C'est le cas aujourd'hui pour Aïla qui a rejoint notre paroisse il y a quelques années maintenant. Aïla, l'Église accueille aujourd'hui ton désir avec joie. Elle obéit à la volonté de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aïla, tu vas être baptisée au nom du Père, qui t'a donné le souffle de la vie. Tu vas être baptisé au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour que tu aies la vie en abondance, t'appelle à son service. Tu vas être baptisé au nom du Saint-Esprit, qui fera naître en toi la foi, l'espérance et l'amour. Grâce à ton baptême, nous nous rappelons notre propre baptême et nous nous souvenons que nous dépendons de Dieu seul et de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour chacun, chacune, petit ou grand, et même pour ceux qui ne le savent pas encore. En effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Prions ensemble. Dieu, toi que nous appelons notre Père, ou toi que nous appelons autrement, quel que soit le nom par lequel nous te prions, nous voici devant toi tels que nous sommes. Nous construisons chacun à notre manière des murs de séparation, des murs qui nous protègent des autres, mais qui ne nous protègent pas de nous-mêmes. Nous t'en prions, viens habiter en nos âmes. Par toi, le monde est créé, crée-le encore. Notre cœur est le monde qui a besoin de ta force créatrice. Recrée ce que tu as formé. Assemble ce qui se désagrège. Éveille ce qui est stérile. Rajeunis ce qui est vieux. Donne-nous des yeux pour voir la lumière. Donne-nous la force de porter du fruit et de nous réjouir corps et âme. Anime ce qui est figé. Rends-nous vivants, nous que notre peur paralyse. Donne courage aux abattus, espoir aux affligés, liberté à ceux que la faute accable. Donne la foi à ceux qui soupirent après elle. Donne aux muets de parler. Donne aux méfiants une parole de confiance. Et à tous ceux qui ne savent pas comment te louer, donne une parole qui te loue, ô Dieu. Viens habiter dans nos âmes. Donne à chacun et chacune ton pardon qui relève et qui guérit. Pour détruire les murs de séparation, donne-nous ta paix. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et je serai votre Père. Vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Pour le moment, j'invite l'Assemblée à s'asseoir et je demande à Ayla de s'approcher. Ayla, que demandes-tu ?
Je demande le baptême.
Avec l'Église universelle, veux-tu confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
A tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Je te cède la parole pour que tu nous offres ton témoignage.
À 7 ans, je m'adressais instinctivement à Dieu en priant dans les églises. Je lui adressais l'amour que je porte à mes proches décédés pour qu'ils leur transmettent. J'ai ainsi placé ma confiance en Dieu en pensant au pouvoir qu'il a de veiller sur les personnes que j'aime. C'est progressivement que j'ai pris conscience de la présence de Dieu dans ma vie et je souhaite aujourd'hui recevoir le baptême et ainsi appartenir à l'enceinte de l'Église où je pourrai approfondir ma connaissance du Dieu de Jésus-Christ. Pour moi, le baptême représente le point de départ d'un des nombreux chemins de foi possibles, et celui que j'ai choisi de suivre est le chemin de Jésus-Christ et de sa promesse de rencontrer le Père en sa personne, comme nous pouvons le lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 et 7. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je crois aux valeurs symboliques portées par la création et à l'amour de Dieu, à sa puissance suprême qui nous dépasse et à laquelle il faut savoir s'abandonner lorsque la vérité nous échappe. Je fais pleinement confiance en un Dieu dont l'amour inconditionnel devrait inspirer nos relations humaines, comme l'exprime l'Évangile de Luc au chapitre 6, vers 36 à 38. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Ces paroles inspirent mon espérance. L'espérance qui me fait confier à Dieu le bien et le mal, la justice et la paix. À mes yeux, le psaume 103 de David illustre parfaitement cette tension entre amour et justice. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Cette miséricorde témoigne de la dimension inconditionnelle de l'amour que Dieu a envers nous, et notre foi se situe elle aussi dans la conditionnalité de notre amour envers Dieu. Je crois au Dieu de Jésus-Christ qui nous accorde le pardon, qui invite à l'écoute et permet de trouver en chacun ce qu'il y a de bon. Donner à chacun la chance de se reprendre. Et notre rôle est d'appliquer, de questionner et d'interpréter sa loi pour lui confier notre amour et qu'il nous confie le sien. Pardonner, comprendre, éloigner la haine et travailler à la paix. Et c'est au sein du Dieu de Jésus-Christ et grâce à Jésus-Christ que les hommes ne sont plus séparés, mais ne font plus qu'un, comme on peut le lire au sein de l'Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18, en parlant du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur des séparations, la haine. Et je crois que c'est au sein du Dieu de Jésus-Christ et à travers ses valeurs et ses promesses que mon esprit et mon cœur sont allégés. C'est aussi à travers la pensée libérale de l'Église protestante réformée que j'entends le discours au sein duquel ma foi s'exauce et je suis heureuse de recevoir le baptême aujourd'hui au temple de l'Oratoire.
Merci Ayla. Alors j'invite l'Assemblée maintenant à se lever pour accueillir Ayla. Je vous présente donc un nouveau membre d'Église en la personne d'Ayla. Elle est ici chez elle. Vous êtes sa famille spirituelle. Vous prierez pour elle. Vous l'associerez à l'édification de l'Église et vous l'encouragerez dans son joyeux service. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté. Et si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Dites avec moi que Dieu nous soit en aide. Que Dieu nous soit en aide. Ayla, que le Saint-Esprit affermisse jour après jour ta vie et ta foi. Amen. Chère Ayla, j'ai le privilège de te remettre un petit numéro de la feuille rose en main propre, très propre. Et dedans, il y a une petite surprise. Voilà, je crois même que je vous propose d'applaudir, peut-être, comme ça, tranquillement, voilà. Et pour continuer notre louange, eh bien, je vous invite à prendre maintenant le chant du cantique 204, Seigneur, dirige et sanctifie. Et nous chanterons les deux strophes de ce cantique. gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons ce matin un extrait du Nouveau Testament. Un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 à 19. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Il a aboli la loi et ses commandements avec leurs observances. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les deux, en un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès au Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la famille de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Et dans le recueil Louange et prière, qui est le petit recueil bleu, nous prendrons maintenant le chant du cantique numéro 170. Et de ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et si quelqu'un peut m'apporter un louange et prière, ce serait extra, parce que je l'ai oublié en bas.
Oublie de tes saintes flammes.
Prenez place. Prions. Dieu notre Père, merci de nous donner ta parole, celle qui nous fait vivre, celle qui nous éclaire lorsque parfois nous ne savons pas où nous allons, celle qui nous réconforte lorsque nous traversons les épreuves, et celle qui nous rend la joie lorsque nous comprenons que jamais tu ne nous as quittés. Alors, envoie ton Saint-Esprit sur chacun et chacune, sur celles et ceux qui écoutent, sur celles et ceux qui parlent, et permets que il y ait un point de jonction entre nous tous, celui de ton amour donné à tous. Amen. Amis, frères et sœurs, chère Aëla, alors lorsque l'apôtre Paul écrit ces quelques lignes aux chrétiens d'Éphèse, eh bien, il sait de quoi il parle. Parce que c'est un homme qui a une double appartenance qu'il définit ainsi. Citoyen romain et fier de l'être, et en même temps que profondément juif et pharisien, ce dont il se glorifie. Hébreu, fils d'Hébreu, israélite de la descendance d'Abraham, tel que nous pouvons le lire dans sa lettre aux Philippiens. Alors, Paul doit sa double appartenance d'abord à sa naissance, à Tarse, en Cilicie, dans une famille juive, et il bénéficie en même temps de la citoyenneté romaine. Et comme Tarse est une ville hellénisée, Paul est aussi de culture grecque, tout en parlant la langue hébraïque. Il peut donc s'adresser en araméen aux Juifs, par exemple, de Jérusalem, tout en parlant grec aux tribuns de cette même ville. Et pendant sa jeunesse, il a suivi l'école de Gamaliel, il est pharisien, comme l'était son père. Et il connaît très bien les Écritures, qu'il citera d'ailleurs en abondance plus tard dans ses lettres apostoliques. Alors cet homme n'a pas connu Jésus de son vivant, mais il fait sa connaissance autrement, par une rencontre saisissante sur la route de Damas. J'ouvre une parenthèse. Si vous avez quelques minutes, tout à l'heure à l'issue du culte, vous pouvez toujours monter dans l'une des tribunes, en particulier celle qui est alors sur ma droite, mais sur votre gauche, enfin ça dépend comment on se situe, et vous verrez une représentation justement de ce qui s'est passé pour Paul sur cette route de Damas. À ce moment, Paul, qui s'appelait encore Saul, persécutait les premiers chrétiens par conviction religieuse. Et Paul était connu pour son côté intraitable, pharisien convaincu, juif attaché à la loi, ce redoutable persécuteur de chrétiens est littéralement retourné par un éblouissement dans tous les sens du terme. Et le revirement de Paul est immédiat, total et définitif. Il devient à partir de ce moment-là le témoin du Christ, peut-être quand même le plus audacieux, le plus prolixe et le plus enthousiaste. Alors même si aujourd'hui de nombreux exégètes s'accordent à dire que la lettre aux Éphésiens n'a peut-être pas été écrite totalement de la main de Paul, mais plutôt par ses disciples, en tout cas ceux qui se réclament de lui transmettent ce qu'ils ont compris de ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Et Paul est cet homme qui, par sa rencontre personnelle avec le Christ, a pris conscience que la bonne nouvelle du Christ ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais à bien d'autres. Il l'a compris lorsque Jésus s'est révélé à lui. Il se nomme d'ailleurs l'Avorton. Et si le Christ prend la douceur ou la présence de se révéler à lui le moins que rien, alors c'est que le Christ peut s'adresser à tout le monde. Et c'est ainsi que Paul s'engagera dans la mission d'annoncer l'Évangile à ceux qui étaient loin, ceux qu'il est convenu d'appeler les païens ou encore les gentils, comme à ceux qui sont tout proches, c'est-à-dire les Juifs. Alors il faut bien avoir à l'idée qu'à cette époque, cette distinction était catégorique. Les Juifs et les non-Juifs ne pouvaient pas se mélanger. On pourrait presque employer ce mot anachronique de ségrégation, comme ce fut le cas aux États-Unis au temps de Martin Luther King, ou encore celui d'apartheid, comme ce fut le cas en Afrique du Sud à l'époque de Mandela. Et on imagine combien le témoignage, les prédications de Paul, son évangélisation, pour employer un mot qui parfois peut faire frémir, est d'une force inouïe. Il annonce purement et simplement qu'il n'y a plus de séparation entre les personnes. Il n'y a plus de différence, en tout cas religieuse, entre une personne juive et une personne non juive au bénéfice de l'enseignement et de la prédication de la bonne nouvelle. Chacune de ces personnes peut faire la rencontre du Christ et il annonce même que c'est la personne même du Christ mort et ressuscité qui est le lieu de réconciliation entre juifs et non-juifs. Et c'est dans sa propre chair, par sa mort, que le Christ a détruit le mur de séparation. Et ce mur de séparation dont parle Paul, c'est la haine. D'ailleurs, l'apôtre ira encore plus loin dans une autre lettre, celle qu'il adresse aux Galates, quand il écrira « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » Et c'est cela l'Évangile. Étymologiquement, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'ensemble de sa création. Paul annonce ici une nouvelle création qui ne passe plus par un tohu-bohu cosmique, mais qui passe par un autre tohu-bohu, celui des consciences et des mentalités, qui est sûrement un chamboulement bien plus important parce qu'il implique un changement profond de regard à la fois sur soi et sur l'autre, qui risque bien, à plus ou moins long terme, de transformer les rapports humains de façon positive. Et c'est ainsi que nous verrons la naissance de nouvelles communautés regroupant des personnes qui ont des éducations religieuses différentes, appelées à vivre ensemble dans une nouvelle notion de fraternité. La différence n'est plus un handicap. Elle n'est plus un sujet de rejet ou d'exclusion. Chaque personne reçoit un nouveau mode de relation fondé sur cet amour inconditionnel et même sans frontières, offerte par le Christ. C'est une sorte de nouvelle identité que l'on pourrait traduire par ces mots. Chacun est regardé sans jugement et sans haine. Et ce n'est pas une vie au rabais que la personne découvre. Au contraire, j'ai envie de dire que c'est une vie augmentée. Regarder, examiner sa propre vie, la relire et la relier à la lumière de la présence du Christ, voilà ce que l'apôtre Paul a compris pour lui-même et qu'il annonce aux autres. Le signe de reconnaissance sera le baptême pour tous. Ce geste de l'eau déposée tout à l'heure sur toi, Aïla, rappelant le geste d'immersion des premiers chrétiens, ce geste qui te fait entrer à ton tour dans la nuée des témoins qui t'ont précédé et qui t'ont ouvert la voie. Et oui, Aïla est devenue à son tour un maillon de la chaîne des témoins. Alors avec ce passage des Éphésiens, nous sommes certainement devant un éclat d'évangile sans précédent, comme l'écrit la théologienne Marion Muller-Collard. Annoncer que le mur de séparation de la haine est détruit, c'est quelque chose qui peut sembler totalement fictif. C'est un message qui a encore bien du chemin à faire et qui donne à réfléchir. Car si nous regardons l'histoire des hommes, notre histoire, ce mur de séparation de la haine détruit par l'amour du Christ, ne saute pas vraiment aux yeux. Les hommes n'ont pas cessé de concrétiser le mur invisible de la haine en mur de béton, de pierre ou de briques, ou en clôture barbelée. Exactement comme si le message du Christ et ceux des premiers témoins étaient restés lettres mortes. Et quand un mur s'ouvre quelque part, comme ce fut le cas, rappelez-vous, à Berlin, en République démocratique d'Allemagne, en novembre 1989, d'autres murs ont été érigés ailleurs quelques années plus tard, comme en Israël ou en Amérique du Sud. Est-ce que vous savez qu'il existe actuellement 65 murs recensés à travers le monde qui représentent 40 000 kilomètres de long, soit la circonférence de la Terre. Et notre pays n'y échappe pas depuis 2016, un mur anti-intrusion, quoique végétalisé, a été construit à Calais pour séparer les migrants des zones d'embarquement. Il y a de quoi être découragé. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avant de séparer ou d'enfermer un mur, ça protège. Ça protège des dangers et des intempéries. Même si en ce moment, les informations concernant le nord de l'Europe nous disent le contraire. De nombreux murs n'ont pas supporté les glissements de terrain et les inondations des fleuves. Mais je voudrais quand même partager une information positive dont on ne parle pas assez souvent. C'est que, contre toute attente, il existe en France une prison qui n'a pas de mur, en Corse, qui accueille des personnes détenues en fin de peine sur un immense champ agricole dans une ferme et elle participe à des travaux agricoles et à des travaux liés à l'élevage. Dans cette prison sans mur, mais également sans surveillance pénitentiaire, ces personnes se préparent à retrouver une place dans la société. Elles apprennent à se réinsérer, à gérer leur emploi du temps. Elles apprennent à ce qu'on leur fasse de nouveau confiance. C'est tout de même une expérience qui existe dans notre pays depuis 70 ans. Et là, c'est le mur de la suspicion qui est tombé. Alors après tous ces murs idéologiques, il y a encore les autres murs symboliques, psychologiques, que nous nous fabriquons les uns contre les autres dans le travail ou en famille, et même en église, lieu par excellence, où nous pouvons nous enfermer dans des jugements à l'emporte-pièce, des médisances, des rumeurs, des rancunes tenaces. qui parfois traversent même des générations. Alors, amis, frères et sœurs, posons-nous la question de savoir comment ce texte de la lettre de Paul aux Éphésiens rejoint notre quotidien et surtout notre être intérieur. Dans sa chair, par le don qu'il a fait de sa vie, Christ a détruit le mur de séparation, la haine. Et si nous avons mis un tant soit peu notre confiance dans le Dieu de Jésus-Christ, alors quels signaux d'alarme ce texte déclenche-t-il dans notre vie de foi ? Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, un chemin spirituel à vivre ou un travail spirituel à faire. Prendre cette parole pour nous-mêmes afin qu'un changement se produise. Une conversion, en quelque sorte. Selon l'étymologie qu'en donne le pasteur Antoine Louise dans son article écrit dans la Feuille Rose, qui, je l'espère, vous est bien parvenu, et qui est consacré justement à ce thème de la conversion. Il dit, dans le Nouveau Testament, le mot conversion, le mot métanoïa, signifie le changement de notre intelligence. Il ne s'agit pas que de comprendre intellectuellement les choses, encore faut-il les intégrer dans notre volonté, notre réflexion et aussi nos sentiments. Cela rejoint en quelque sorte l'un des deux commandements du sommaire de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et aussi de tout ton cœur. Et c'est bien là toute la personne qui est sollicitée. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de comprendre et de recevoir la parole biblique, comme nous l'a dit tout à l'heure Aïla dans sa confession de foi. Si, comme elle, nous avons confiance dans cette parole d'évangile, confiance dans la puissance de cette bonne nouvelle, alors nous ne pouvons que rejoindre l'heureuse découverte de l'apôtre Paul, le Christ est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Cette unité est donnée par le Christ, c'est vrai, mais elle reste constamment à construire entre nous, sans cesse à rechercher comme une priorité à l'intérieur de nos familles, de nos églises, dans toutes nos relations et plus largement dans la société et entre les peuples. Et cela commence par nous-mêmes, et cela concerne au fond toutes les personnes de bonne volonté. C'est un travail qui demande notre attention constante. Encore faut-il que ceux qui se réclament du Dieu de Jésus-Christ soient convaincus que c'est bien là une parole de vie qui donne sens à notre vie. Notre foi, mais aussi notre raison, nous encourage à détruire les murs de séparation, qu'ils soient de haine ou de béton. Nous ne sommes plus des étrangers les uns par rapport aux autres. Et nous avons reçu d'une certaine façon le ministère de réconciliation. D'ailleurs, c'est ce thème-là que nous travaillerons l'année prochaine avec le groupe biblique œcuménique. Et nous croyons d'une façon ou d'une autre que le mal peut être changé en bien et que, ce faisant, alors nous pouvons y reconnaître une trace de l'amour fou de Dieu pour toute sa création. Aïla, le baptême que tu as reçu aujourd'hui n'est pas là pour t'enfermer dans une communauté restreinte. Au contraire, il t'ouvre à quelque chose de plus universel, l'avènement d'une fraternité encore plus humaine. Et ce n'est pas une pirouette que de dire cela. C'est une prise de conscience, une sorte de chemin de Damas à notre échelle. Nous faisons le constat que l'être humain est mis à rude épreuve, plus encore ces derniers mois avec la pandémie. Les plaies, encore grandes ouvertes, fragilisent l'ensemble des relations humaines, voire citoyennes. Pourtant, nous faisons partie du même monde. Nous sommes tous de la même famille humaine. Et quand l'épreuve est là, chacun ressent le besoin vital de s'appuyer les uns sur les autres. Mais comment faire ? Parmi les réponses proposées, je voudrais en partager une qui m'a été donnée récemment par une de mes amies du mouvement Sève, auquel j'appartiens depuis plusieurs années. Je travaille comme référente protestante dans ce mouvement. Une femme catholique, Marguerite Hoppenot, fondatrice de ce mouvement spirituel et amie du pasteur Marc Bögner, écrivit un jour ceci. Toutes les hostilités visibles ou invisibles, avouées ou non avouées, toutes les guerres de la plus partielle à la plus universelle prennent leur source dans le cœur de l'homme, y compris les conflits religieux. Soyons convaincus que le seul vrai lieu de désarmement, c'est le cœur de l'homme. Et pour continuer à être les artisans de paix et de justice, il s'agit de vider notre cœur de toutes nos puissances d'agressivité et de violence afin de faire advenir une certaine paix dans notre être intérieur pour aimer plus et sauver l'amour dans le monde, là où nous sommes. Alors, je me suis souvenue de cette petite histoire, enfin, pas, c'est pas une histoire, mais de ce témoignage qui s'est passé. Vous vous souvenez, en 2016, après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, personne ne s'attendait à ce que les chrétiens accueillent les musulmans à la messe dominicale qui a suivi l'assassinat du prêtre, ni que les musulmans se rendent à cette invitation. Et pourtant, amis, frères et sœurs, c'est exactement cela qu'il fallait faire pour résister à la destruction du lien de la fraternité humaine, pour continuer d'abattre les murs de haine, pour continuer à être présent au monde d'une façon crédible, tout simplement, uniquement pour une seule chose. C'est parce que notre monde en a urgemment besoin. Amen.
Alors, dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le numéro 315. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 3 et 6, et je vous invite à vous lever.
Bonjour à tous. Quelques annonces au nom du conseil presbytéral que je représente. Aéla, merci d'être là et merci à l'Assemblée d'être venue si nombreuse parce que Paris est bloqué par le Tour de France et nous sommes dans le périmètre de fermeture. Donc beaucoup d'entre vous ont couru à pied pour nous rejoindre et pour te rejoindre et t'accueillir et nous en sommes ravis. Dimanche prochain, Sainte-Seine. Donc normalement, l'accès au temple de l'oratoire sera plus facile. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager la scène avec nous. Et là également, pour reprendre le thème du jour de la prédication, vous êtes tous invités à partager la scène, baptisés ou non baptisés. La feuille rose est sortie. Le thème « Convertissez-vous ». Alors tous nos donateurs l'ont déjà reçu à domicile. Si vous n'êtes pas donateur, vous pouvez le devenir, mais surtout vous pouvez récupérer la feuille rose qui est en libre disposition dans le temple. N'hésitez pas à en prendre pour des amis. Le thème est cette année « Convertissez-vous ». Et nous avons, cette année, sur ce numéro, nous avons répondu à un appel qui fait écho à ce que Agnès nous a dit. Un appel de décembre dernier de plus de 450 dignitaires religieux, responsables politiques, qui ont déclaré en Angleterre, je vous lis, « Nous affirmons que nous sommes tous égaux devant Dieu et que nous sommes tous égaux les uns avec les autres. Nous croyons que l'amour et la compassion devraient être à la base de la foi et que la haine n'a pas de place dans la religion. » La couverture de cette feuille rose, c'est la conversion de Paul que Agnès vous a indiqué, qui est dans cette chapelle, donc n'hésitez pas à venir la voir, parce que nous sommes ici un monument historique, l'oratoire du Louvre, mais nous sommes aussi, et tu l'as rappelé à Ella, historiquement soutenant ce qu'on appelle le libéralisme et la partie libérale du protestantisme. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur tous, le conseil presbytéral, mais aussi les paroissiens qui nous soutiennent depuis si longtemps. Et comme l'a dit Agnès, c'est urgent d'arrêter la haine dans la religion et, j'allais dire, au pire, la haine au nom de la religion. Nous avions répondu à l'appel de l'Église unie sur l'attentat de Samuel Paty. Nous répondons là à un appel du monde entier qui dit non aux thérapies de conversion. Parce que là aussi, c'est au nom de la religion qu'on introduit de la haine, notamment dans les familles, et qu'on tue des gens, à minima, psychologiquement parlant. Voilà. Parce que nous aimons être tous ensemble, et que c'est important d'être tous ensemble, le week-end prochain, pour ceux qui sont notamment seuls à Paris, ou qui passeraient, nous allons à Château-Thierry. Donc inscrivez-vous. Pourquoi Château-Thierry samedi prochain ? Parce que nous avons la chance d'avoir deux paroissiens, qui sont aussi paroissiens de Château-Thierry, mais qui sont Christiane et Bernard Guttinger, qui nous invitent à passer la journée à Château-Thierry où est né Jean de La Fontaine, qui avait rejoint les oratoriens de l'autre côté, et qui a aussi un lien avec l'oratoire du Louvre. Et nous allons donc visiter le musée de La Fontaine, également le temple de Château-Thierry, qui est un temple réformé américain. C'est un mémorial qui avait été offert par les Américains à l'Église réformée de France suite à la Première Guerre mondiale et à tous les massacres qui ont eu lieu pendant cette Première Guerre. Donc nous passons la journée à Château-Thierry. Vous envoyez, si vous voulez rejoindre le groupe, un petit mot à accueil@oratoiredulouvre.fr où vous vous signalez aujourd'hui à un des conseillers qui ont un badge et nous serons ravis de partir avec Agnès rejoindre Bernard et Christiane Guttinger à Château-Thierry samedi prochain. Voilà. C'est le temps de l'offrande. Juliette aura, pour ceux qui sont nouveaux, le panier digital, c'est-à-dire que nous pouvons faire des offrandes par carte bleue si vous n'avez pas de monnaie ou de billets. Également, petite information importante de la part de notre trésorière, la loi de finances rectificative est passée, les dons nominatifs sont maintenant déduits à 75%. Pour ceux qui payent des impôts, sachez que les dons sont cette année, à partir du 2 juin, je crois exactement, déductibles à 75% de vos impôts. Bonne journée à tous.
Avant de nous unir dans la prière d'intercession, je voudrais rappeler simplement que la pause spirituelle continue d'avoir lieu chaque jeudi pendant tout l'été, de 12h30 à 13h30, ici même dans ce temple. Qu'elle continue avec moi jeudi prochain et qu'elle continuera avec Béatrice la semaine suivante, et ce, pendant tout le mois d'août. Même heure, même endroit. Et peut-être que vous avez remarqué qu'il y a des fleurs qui sont restées sur l'allée centrale. C'est tout simplement pour témoigner qu'il y a eu un mariage hier, une célébration de mariage, une bénédiction sur le couple de Matthieu et de Rachel. Ils auraient dû se marier déjà au mois d'août, mais avec les conditions sanitaires de cette année, eh bien, on s'est enfin retrouvés pour cette fête hier après-midi. Et c'est pour ça qu'il y a des petites fleurs, tout simplement. Prions ensemble. Seigneur, tu es comme un trait de lumière, venu du fond des temps, du plus loin des espaces, déchirer les ténèbres de la vie et du monde. Mais il en faudrait tant de ces traits de lumière. Tu es comme une main offerte tendue du fond des âges, venue de nos mémoires, arrachée à la mort ce qui reste d'un mouvement de vie. Mais il en faudrait tant de ces mains ouvertes pour que la paix vienne sur l'humanité. Tu es encore comme un espoir d'aimer qui nous vient à l'esprit quand tout est oublié. Mais il en faudrait tant de ces espoirs d'aimer pour qu'un souffle de vie fasse chanter les lendemains des hommes. Alors nous t'en prions, sois la paix que nous ne pourrons jamais construire seuls. La paix qui change le monde, la paix qui change les hommes. Nous te confions à Ella, qui a reçu aujourd'hui le signe de ta grâce et de ton amour inconditionnel. Nous te confions aussi tous les membres de sa famille et tous ses amis. Nous te confions Matthieu et Rachel qui ont demandé hier ta bénédiction sur leur couple. Nous te confions celles et ceux dont la foi chancelle, celles et ceux dont la santé est précaire, celles et ceux qui subissent les intempéries actuelles, comme celles et ceux qui se sentent désemparés ou démunis par les épreuves. Nous te confions celles et ceux qui vivent dans la solitude. Nous te confions les personnes incarcérées. Et nous te confions celles et ceux qui demandent le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. et recevons encore la bénédiction de la part du Seigneur. Mon ami, mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Je vais demander à Ayla de venir signer le registre de baptême. Pendant ce temps, nous écouterons donc le morceau de musique de la sortie. Que chacun sorte tranquillement en laissant les cantiques à sa place. Ils seront rangés ultérieurement, ne vous inquiétez pas. Et d'ores et déjà, nous voudrions vous souhaiter un très très heureux dimanche.